Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est ici Jésus qui parle. Dans sa bouche et son action à lui, je suis venu prend un sens plein. Le mouvement a une valeur en soi. Il porte un message. Il exprime une attention. La venue dont il est question est tout sauf une formalité. C'est un acte fort. C'est un mystère aussi et une générosité insondable. De Jules César, on n'a retenu que la formule. De Jésus, on célèbre sans se lasser l'acte lui-même et tout ce qu'il représente. Il est venu parmi nous. Il est venu. C'est donc que son origine est ailleurs. Le bébé qui naît à Bethléem n'est pas simplement un enfant du pays ou un enfant du monde. Pour bien parler de lui, il faut regarder plus loin, plus haut, avant, longtemps avant. Les récits des évangiles expriment tous ce dépassement. Marie, la première, sait que l'enfant qu'elle a porté est le fruit d'un miracle, une sorte d'acte créateur qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais dont elle est témoin en son propre corps. Son enfant, elle le sait, possède une part d'elle-même et une part qui vient d'ailleurs, qui est le fruit de l'action de Dieu lui-même. L'ange qui lui a annoncé cette naissance a eu des mots particuliers pour le désigner, cet enfant. Il lui a parlé du Saint-Enfant qui devait naître. Et il a dit qu'il serait appelé Fils de Dieu. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'on ne pense pas que Fils de Dieu veut dire qu'il y a une espèce d'union charnelle des dieux avec les hommes, comme les imaginent les mythologies, c'est au récit biblique de la création qu'il a été fait allusion. L'ange lui a dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. » Comme dans le récit de la Genèse, l'Esprit est promesse de vie, mais cette vie, elle vient, elle advient par la pure action créatrice de Dieu. L'origine donc de l'enfant est ailleurs. C'est aussi ce que signalent les nombreuses interventions d'êtres célestes qui célèbrent sa naissance. Les anges, dont nous avons lu le récit tout à l'heure, la venue des anges, les anges, c'est pas du folklore. C'est pas des choses qui apporteraient simplement à notre imagination un petit peu de merveilleux dont nous aurions besoin de temps en temps. Ces anges sont là pour être un signe. Le signe que cet enfant qui a été conçu dans le sein de Marie à une part de lui-même qui vient du ciel, sur ce lieu du rayonnement même de la présence et de la gloire de Dieu qu'il chante et qu'il connaisse si bien. Le prophète Michée, d'ailleurs, l'avait pressenti. Il avait annoncé « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël » et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas comme cela que l'on parle d'habitude d'un enfant. Surtout pas en Israël, où Dieu est Dieu et où l'homme est homme. L'apôtre Jean, méditant sur ce mystère, aura une formule encore plus saisissante. Et il nous dira « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, c'est celui-là qui nous l'a fait connaître. » Autrement dit, sa demeure, c'est l'intimité du Père, le parfait amour, la parfaite connaissance, la parfaite harmonie, la parfaite joie. Il est venu de là. Et nous découvrons ici que sa venue est, plus que tout ce que nous pouvons imaginer, un abaissement, une réduction de toutes ses perspectives, de tous ses horizons. Être Dieu unique, être Dieu Fils unique dans l'intimité du Père, c'est tout connaître avec le Père et comme lui. C'est tout décider avec le Père et comme lui. C'est tout savoir, c'est tout posséder avec le Père et comme lui. Quand on vient de là et qu'on se fait proche des hommes jusqu'à devenir comme eux, c'est plus qu'une distance franchie. C'est un abaissement auquel on consent. C'est plus qu'un abaissement, c'est un renoncement. Car devenir homme, quand on est Dieu Fils unique, ce n'est pas une promotion. Les anges sont restés anges quand ils ont annoncé et chanté sa venue. Ils ont gardé leur éclat lumineux, ils ont gardé la gloire visible du ciel. Mais lui, au même moment, il s'était fait homme en acceptant les limites d'un homme et d'un homme au tout début de sa vie d'homme. Si les anges étaient venus chanter au-dessus de sa crèche, ils n'auraient même pas compris son message, leur message. Il s'était abaissé jusqu'à être un petit bébé qui a tout à apprendre encore. Au moment de Noël, les adultes qui entourent Jésus, les bergers Marie-Joseph, en savent plus sur lui qu'il n'en sait lui-même, dans les limites dans lesquelles il a accepté d'entrer. Sa venue est un immense entonnoir, où celui qui existait en forme de Dieu, dans la pleine conscience que possède Dieu, s'étrique dans les limites d'une personne humaine, dans les limites d'une conscience d'homme. Tout le potentiel divin qui était le sien, qui reste d'ailleurs le sien alors qu'il s'abaisse comme cela, tout ce potentiel divin se retrouve comme compressé, comme enserré dans une limite humaine et une limite qu'il choisit à tout moment, en toute situation, de respecter. Imaginez un papillon qui, après avoir connu sa vie de papillon, accepte de devenir chenille dans son cocon, tout en gardant les capacités du papillon. Ça vous donne une petite image de l'entonnoir dans lequel Jésus est descendu. Et ce qui est assez remarquable quand on pense à Jésus, c'est que jamais il ne s'est plaint d'être venu là ou d'être là. Les occasions, pourtant, tout au long de sa vie, n'aurait pas manqué, où il expérimentait les limitations, les difficultés de la vie d'homme, mais jamais il n'a rechigné, jamais il n'a traîné les pieds. Nous savons, en ce qui nous concerne, faire sentir aux autres quand ça nous pèse d'être quelque part. Il suffit d'un mot, d'un geste, d'une moue, d'un soupir, on sait faire ça. Jésus n'a pas cédé à ses facilités. Il a préféré mettre toute sa volonté, tout son cœur dans la qualité de relation qu'il était venu établir avec les hommes. Il est venu. Il est venu dans notre monde. Pas comme Jules César quand il a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». J'imagine Jules César, ce jour-là, certainement, rester sur son cheval et regarder de haut ses troupes se battre et gagner la bataille. Lorsque Jésus vient, c'est sans se protéger lui-même. Voyez ce bébé dans sa crèche. Il est vulnérable. Quand Hérode veut l'exterminer, il doit fuir avec ses parents en Égypte. Il connaît l'exil, ce bébé, les mauvaises routes, les auberges bruyantes. C'est pas ce qu'on souhaite à un petit. Plus tard, il connaîtra l'apprentissage, le travail de ses mains. Peut-être le deuil, si, comme on le pense, Joseph est mort jeune. De tout cela, il ne s'est pas protégé. Et pareillement, dans toute sa vie, jamais il ne s'enfermera dans une tour d'ivoire. Il ira toujours au contact des réalités. Toujours et encore, il ne se protège pas. Quand nous fêtons Noël, nous aimons que tout soit calme, Que tout soit paisible, que tout soit beau, douce nuit, sainte nuit. La trêve, toute tension supprimée, une bulle de paix autour de Noël. Jésus, lui, est venu dans le monde tel qu'il était. Un recensement qui oblige à se déplacer, même si vous attendez un enfant. Et qu'est-ce qu'on gagne au bout du voyage ? Encore plus d'impôts par l'occupant romain. La difficulté à trouver un hébergement quand ils arrivent à Bethléem. Un conflit de besoins. Marie et Joseph ne sont pas les seuls à être en situation délicate. Jésus arrive dans le monde tel qu'il est. Et ce monde tel qu'il est, c'est aussi, il faut le dire, malgré les tensions, c'est aussi la solidarité. La mangeoire dans laquelle Jésus est couché est quand même probablement plutôt une partie de la pièce où habitait une famille. Vous savez, les familles habitaient dans des grandes pièces principales qui donnaient aussi ensuite sur une partie en contrebas où il y avait les animaux. Les animaux donnaient la chaleur, il y avait des mangeoires comme ça juste à la limite. Il est bien probable que Jésus ait été plutôt accueilli quand même dans une de ces familles que de penser qu'il a été juste relégué dans une étable très très loin. Le monde tel qu'il est, c'est aussi et malgré tout un monde où Dieu veille, même quand on est dans des situations difficiles. En effet, nous dit l'Évangile selon Luc, c'est pendant que Marie et Joseph étaient à Bethléem que l'enfant est né. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, il est né. Ils ont eu le temps de s'installer, ce qui veut dire qu'on en a un petit peu rajouté traditionnellement sur le côté dramatique des circonstances de la naissance de Jésus, quand on imagine que Jésus naît le soir même de leur arrivée à Bethléem, alors qu'il n'y a aucun abri, que personne ne veut d'eux. Ce n'est pas tout à fait aussi dramatique que cela. Le monde réel n'est pas toujours le pire des mondes, ni le meilleur d'ailleurs, c'est vrai. Mais tout n'est pas facile pour Jésus et pour ses parents, c'est sûr, quand il arrive dans le monde. Si donc tout n'est pas facile pour vous en cette période de Noël, bienvenue dans le monde de Jésus, dans le monde où précisément il est venu. Dans ce monde, Jésus vient presque incognito. J'imagine le « je suis venu » de Jules César. Un « je suis venu » pompeux, avec escorte, avec fanfare, où l'on montre sa force, où l'on impose sa puissance et sa présence. Un « je suis venu » incontestable, incontesté, qui impose sa loi, même si cette loi, on l'appelle la paix romaine. La venue de Jésus n'a rien à voir avec cela. Aucun titre pourtant ne lui manque. N'est-il pas précisément le Seigneur ? C'est ce que disent les anges. Sa parole n'est-elle pas la parole créatrice, celle qui a même créé le monde ? Il dit la chose existe. Voilà ce qu'enviraient tous les puissants de ce monde. Une parole qui dit et la chose existe, une parole parfaitement performative. Il a à sa disposition des légions d'anges, autrement puissantes, autrement nombreuses que celles de César. Mais tout cela, il ne le fait pas valoir. Tout dans sa venue s'oppose à la façon dont nous aurions fait venir le roi des rois sur la scène du monde. Un enfant qui n'a même pas de chez lui, et avec pour seule cour quelques bergers, pour seule richesse, l'amour et les soins attentionnés que lui témoigne un jeune couple loin de chez lui, coupé de ses racines. Si quelqu'un parmi nous ce matin a peut-être l'impression de ne pas compter pour grand monde, d'être un peu transparent, bienvenue encore dans le monde de Jésus. C'est précisément là qu'il est venu, précisément là. Pourtant, nous l'avons lu dans les récits de Noël, la venue de Jésus n'est pas simplement une venue incognito. Le ciel s'est déplacé pour annoncer l'événement. Et c'est même l'unique moment de l'histoire humaine où s'est révélé avec une telle ampleur le monde de Dieu, le monde spirituel, ordinairement caché à nos sens, mais qui possède une réalité majestueuse et glorieuse. Jésus n'est pas venu tout seul, mais la foule des anges, la foule de cette armée céleste, ne s'est pas posée pour faire de la publicité devant la maison où il était. Elle ne s'est pas non plus mis à la place centrale de Bethléem, ni en multiplex dans les différentes villes d'Israël ou de l'Empire romain. C'est à l'écart, sur les collines de Bethléem, où veillaient quelques bergers, que les anges sont venus pour saluer l'événement, pour en dire tout le sens, toute la lumière. Ah, Jules César, il n'aurait pas aimé ça. Il n'aurait pas aimé ça. Que seuls quelques obscurs individus soient au courant de sa venue. Jamais il aurait voulu ça. Jamais il aurait aimé ça. Autant rester chez soi. Autant rester dans son palais. La différence, c'est que là, César vient pour lui-même, pour se faire valoir, imposer son pouvoir. L'autre Jésus est venu pour nous, pour se faire proche, même des gens que l'on juge être des gens communs, pour leur apporter, là où ils sont, la lumière et la grâce. Et c'est ainsi que sa venue n'a rien de redoutable, ni de menaçant. « N'ayez pas peur », ce sont les premiers mots que disent les anges aux bergers. L'humanité n'a rien à craindre quand Dieu vient dans sa grâce. Lorsque le Seigneur déchire les cieux, comme en réponse à la prière que nous avons lue tout à l'heure, lorsque le Seigneur déchire les cieux et vient à Noël, ce n'est pas pour mettre le monde sens dessus-dessous, ce n'est pas pour écraser ceux qui lui résistent, c'est au contraire pour offrir sa paix, pour offrir sa faveur. Et c'est un don. Il vous est né un sauveur, disent les anges. Et l'orientation est claire, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous avez remarqué l'ordre des mots ? D'abord, un sauveur. Il vous est né un sauveur. Et c'est ce mot qui gouverne tout ce qui suit. C'est ce que met en avant le nom même de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Et avec la précision, il sauvera son peuple de son péché. Avons-nous besoin ce matin de pardon, d'acceptation, de réconciliation avec nous-mêmes et avec Dieu ? Bienvenue dans le monde de Jésus. Il est venu précisément pour cela. Il vous est né un sauveur. Sur ce « vous », nous pouvons écrire chacun notre nom. Ce sauveur est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui avait été annoncé. Et ça nous rappelle que Dieu, au temps voulu, accomplit ce qu'il avait promis, envoie ce qu'il avait annoncé. Et c'est ainsi que la fidélité de Dieu s'invite dans l'événement et s'ajoute à son mouvement d'amour et de bonté vers nous. Et puis ce sauveur, c'est aussi le Seigneur. Et là, nous découvrons toute l'implication de Dieu lui-même dans ce secours qu'il vient offrir, dans ce salut qu'il vient réaliser. Il n'envoie pas un subalterne, mais c'est lui qui vient lui-même. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur est ici subordonné à Sauveur lors de la venue de Jésus. Il vient pour sauver, pas pour dominer. Et cela aussi, César, il n'aurait pas aimé. Dans la tête de bien des puissants, Seigneur, avec l'idée de domination, de pouvoir, c'est premier, même quand on se présente un petit peu en sauveur. Même si on se dit être le sauveur des peuples, c'est pour renforcer souvent son autorité, sa puissance. Avec Jésus, c'est l'inverse. Sauveur est premier et Seigneur vient renforcer ce mouvement du Sauveur vers nous. Et c'est pourquoi le signe qui manifeste ce mouvement peut être un signe simple, sans la moindre prétention, à la portée de tous. Vous découvrirez un nouveau-né, enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Aucune barrière, aucun cordon de sécurité, pas le moindre protocole pour l'approcher. Chacun peut s'approcher. Mais la fragilité, la vulnérabilité qui accompagnent cette ouverture ne sont pas à redouter, car c'est bien le Seigneur qui est là, sous les traits d'un enfant. Et on sait qu'il mènera jusqu'à son terme ce qui, à Noël, n'est qu'un commencement, un faible commencement. Vous ne vous seriez peut-être pas approché de César si vous aviez vécu à son époque parmi les populations au sein desquelles il était venu. Mais d'un Seigneur qui, comme Jésus, s'offre en sauveur, avec cette ouverture, cette simplicité, de lui, on peut s'approcher vraiment. Et nous savons que cette liberté d'approche est quelque chose qui caractérisera Jésus bien après sa naissance, bien plus loin que le temps de la petite enfance. Tout au long de son ministère, il gardera cette ouverture qui ne met pas de barrière dans la relation. Il était abordable, il était dérangeable, on venait à lui facilement. Même les petits, les méprisés, les rejetés osaient venir à lui. Même ceux qui n'étaient pas du tout fiers d'eux sentaient qu'ils pouvaient l'approcher, qu'ils seraient accueillis, qu'ils seraient compris. Et aujourd'hui encore, alors qu'il a pleinement manifesté ce qu'il était par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par son élévation au ciel, aujourd'hui encore, il reste pour nous ce Sauveur et Seigneur qui ne met pas de barrière. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a promis Jésus. Et l'Épître aux Hébreux emploie de grands titres pour Jésus, mais elle emploie de grands titres pour Jésus pour dire que malgré ces titres, il y a une simplicité d'approche, une proximité qui demeure. Voilà ce qui est dit, Hébreux chapitre 4. Nous avons un souverain grand prêtre. Waouh, ça c'est un immense titre, et puis c'était une figure très respectée. Nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez, le signe ne change pas de nature. Jésus, même élevé au ciel, le grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus reste accessible de celui qui s'approche de lui, de celui qui l'invoque. Il vous est né un sauveur, et le Christ le Seigneur. Nous savons, nous qui sommes de l'autre côté de Noël, que ce sauveur ira jusqu'à donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être pleinement réconciliés avec Dieu. Et c'est à ce prix que nous pouvons, nous approcher avec toute assurance, en pleine assurance, et nous approcher d'un trône de Dieu, du trône de Dieu qui est un trône de grâce, un trône où nous découvrons la grâce, où nous découvrons le pardon, où nous découvrons l'accueil. C'est cette perspective qui, le jour de Noël, a mis le ciel en fête. C'est étonnant quand même, quand on y réfléchit, d'entendre les anges chanter lorsqu'ils annoncent la venue de Jésus. Moi, je trouve qu'ils auraient pu tout aussi bien pleurer, car le Fils de Dieu, venu vers nous, allait traverser des abîmes de douleur pour être notre Sauveur. Et il le savait aussi. Lui, Jésus, et les anges aussi le savaient. Et pourtant, ils ont chanté ce jour-là. Ils ont chanté cette nuit-là. C'est que probablement, ils s'étaient mis au diapason de Jésus, de son état d'esprit à lui, lorsqu'il est venu parmi nous. Car en ce qui concerne Jésus, c'est en vue de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix et qu'il a méprisé la honte qui s'y rattachait. Jésus, en venant vers nous, a fait de notre bonheur éternel, car c'est ça la joie qui lui était réservée. C'est la joie de sauver justement des hommes. Jésus a fait de notre bonheur éternel qu'il venait rendre possible son horizon et sa joie. Et le ciel tout entier a adopté son regard en la nuit de Noël. Alors s'il nous faut, nous aussi, persévérer et tenir ferme dans l'espérance et dans l'attente, y compris au travers de chemins qui peuvent être exigeants, bienvenue là encore dans le monde de Jésus. Mais sachons vraiment que parce que Jésus est venu vers nous, notre horizon est transformé. Comme les bergers sont allés à Bethléem, nous pouvons nous aussi louer Dieu de tout ce que nous avons déjà vu si nous connaissons Jésus, si nous l'avons laissé entrer dans notre vie, et le louer aussi de tout ce qu'il fera encore, parce qu'il y a bien des choses en réserve. Et si nous prenons vraiment à sa juste mesure cette venue du Seigneur Jésus, alors nous ferons également nôtre dans l'horizon de la vie qui est dans la vie qui est la nôtre. Nous ferons nôtre ce chant des anges et nous en ferons nous aussi notre horizon. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Il est venu, il vient, il reviendra. Merci Seigneur, éternellement merci. Amen.